Chapitre 20. N'en étant pas à son premier affrontement mortel, Nietzsche n'envisagea pas un instant d'obéir à Anna. Dans une situation pareille, la fuite était immanquablement une erreur fatale. Guidée par son instinct, la magicienne leva une main au-dessus de l'épaule de sa compagne et invoqua tout le pouvoir soustractif dont elle disposait. Une tempête destructrice allait souffler sur les trois intruses, les balayant du monde des vivants. Sauf que rien ne se produisit. Au moment où elle constatait que son Han lui était inaccessible, Nietzsche se souvint d'une particularité du palais du peuple. Entre ses murs, tous les pratiquants de la magie, à part le seigneur Ral en titre, étaient quasiment privés de leur pouvoir. Les choses risquaient très vite de tourner à la catastrophe. Quand le premier éclair jaillit, fondant sur Anna, un vacarme de fin du monde faillit faire exploser les tympans de Nietzsche. Éblouie par la lueur de l'attaque magique, elle dut fermer un instant les yeux. Quand elle les rouvrit, une seconde plus tard, la magicienne constata que des filaments de lumière noire se mêlaient à la lance de lumière qui fondait sur Anna. Des étincelles crépitaient dans l'air. Plus obscur que la nuit, le composant soustractif du sort offensif semblait être un trou noir prêt à dévorer le monde de la vie. Au contact de l'énergie surnaturelle, le marbre qui couvrait le sol, les murs et le plafond du corridor se fissura et explosa par endroits. Des éclairs de pierre volèrent dans toutes les directions, ricochant sur toutes les surfaces solides disponibles. Dans le nuage de poussière consécutif à l'attaque, Nietzsche constata que la flamme de plusieurs torches avait été soufflée par l'onde de choc. Bien que son pouvoir fût trop faible pour qu'elle puisse riposter, Nietzsche parvint à établir avec son Han une liaison précaire et provisoire. Aussitôt le monde parut se pétrifier. Ses membres pesant soudain des tonnes, l'ancienne maîtresse de la mort eut le sentiment que le temps lui-même suspendait son cours. Nietzsche distingua nettement chaque éclat de marbre qui zébrait l'air. Comme dans un cauchemar, les projectiles pointus parurent soudain voler au ralenti, et avec un petit effort, la magicienne aurait pu les compter. Mais pour l'instant, elle tentait de se concentrer plutôt sur l'éclair de magie mixte qui menaçait de dévaster le long corridor blanc. Alors que le temps ralentissait, comme s'il s'était pris dans la toile gluante d'une araignée, l'esprit de Nietzsche se mit à fonctionner à une vitesse incroyable. Malgré ses efforts, elle ne trouva rien dans son répertoire de sorts qui pût s'opposer efficacement à une combinaison de magie additive et soustractive. L'éclair était assez puissant pour fracasser du marbre, mais pour l'heure, il cherchait avant tout une cible de chair et de sang. Alors que la lance blanche veinée de noir fondait sur sa cible avec une déconcertante lenteur, Nietzsche s'avisa en une fraction de seconde que la dame abbesse à la retraite était en danger de mort. Connaissant les trois femmes qui se tenaient devant Anna et elle, Nietzsche savait à quelle source elles puisaient leur pouvoir dévastateur. Résolue à sauver Anna, elle la prit par le poignet et tenta de la tirer à l'écart de la trajectoire du tueur lumineux. Chaque mouvement, comme s'il était fait dans un baril de mélasse, prenait une petite éternité. Et si elle ne parvenait pas à l'écarter de la ligne de mire du sort, Nietzsche savait que la dame abbesse ne survivrait pas au choc. La manœuvre faillit réussir. Hélas, l'éclair bondit sur le côté, ce qu'il n'aurait jamais dû faire en temps normal, et vint délibérément percuter Anna, lui traversant la poitrine avant de ressortir par son dos. Arrachée à la prise peu assurée de Nietzsche, la vieille dame décolla du sol et alla s'écraser contre un mur. L'impact très violent fissura le marbre blanc. S'il restait un os entier dans le corps d'Anna, ce serait un miracle. Bien inutile, cela dit. Car Anna Lina Alderaan était morte avant même de percuter le mur. L'éclair de magie mixte se volatilisa. Alors que le coup de tonnerre lui faisait encore bourdonner les oreilles, Nietzsche tenta d'éclaircir sa vision. Quand elle eut réussi, elle vit que le cadavre d'Anna gisait dans une flaque de sang qui se répandait sur le marbre naguère immaculé. Dans le couloir en face de Nietzsche, les trois meurtrières observaient déjà leur prochaine proie. La magicienne se demanda comment ses adversaires avaient pu utiliser leur magie à l'intérieur du palais. La réponse lui vint comme une évidence. Les trois sœurs de l'obscurité avaient relié leur pouvoir. En d'autres termes, elles avaient agi dans une parfaite harmonie conceptuelle et pratique, et cela leur avait permis de se jouer des défenses magiques du palais. Mais comment Armina et les deux autres Avait-elle réussi à s'introduire dans le fief du seigneur Hall? C'était la question essentielle dont la réponse resterait à jamais inconnue. Pour l'heure, Nietzsche avait des préoccupations plus urgentes. Dans un instant, un nouvel éclair jaillirait et elle subirait le même sort que la pauvre Anna. Par un passé pas si lointain que ça, la magicienne se serait fichue de laisser ou non sa peau dans cette affaire, mais tout était différent et elle n'avait plus envie de mourir. Heureusement, la fin serait rapide. Comme Anna, elle ne sentirait rien avant de basculer dans le néant.
« Sœur Nietzsche, » dit Armina avec un rictus mauvais, « je suis ravie de te revoir. »
« Moi aussi, »
dit Julia, la sœur postée sur la droite d'Armina.
« Même si nous t'avons surprise en très mauvaise compagnie. »
Campée sur la gauche d'Armina, la solide Greta foudroya du regard l'ancienne maîtresse de la mort. Ces trois femmes étaient des sœurs de l'obscurité. Comme Ulyssia, Cecilia et Tovi, Armina avait échappé à l'emprise de Jagang. De leur propre chef, les quatre rebelles avaient lancé le sort d'oubli, capturé Kalan et remis dans le jeu les boîtes d'Orden. Julia et Greta, en revanche, étaient depuis longtemps prisonnières de Jagang. Armina n'avait en principe rien à faire avec elles. Sans prendre le temps de se demander pourquoi les trois élatrices du gardien étaient ensemble, ni ce que ça impliquait, Nietzsche décida qu'elle ne se rendrait pas sans combattre. Faisant un grand geste circulaire, elle invoqua le champ de force le plus puissant qu'elle connaissait. Dans les circonstances présentes, il serait ridiculement faible, mais avec un peu de chance, il lui gagnerait le répit dont elle avait besoin. Ensuite, la magicienne fit demi-tour et courut vers l'escalier. Elle n'avait pas fait trois pas quand un point d'air compacté la percuta et la fit tomber en avant. À moitié sonnée par le rude contact avec le sol, Nietzsche dut se rendre à l'évidence. Contre le pouvoir combiné des trois sœurs de l'obscurité, son champ de force s'était révélé inefficace. Mais pourquoi un point d'air au lieu d'un éclair mortel, comme pour Anna? Peu désireuse de connaître la réponse, du moins dans l'immédiat, la magicienne roula sur un côté et se releva. S'orientant très vite, elle franchit l'entrée d'un couloir latéral. Dans son dos, elle entendit le bruit des pas de ses trois poursuivantes. Dans ces couloirs entièrement en marbre, il n'y avait pas la moindre alcôve où se cacher. Si Nietzsche se mettait à courir, ses adversaires n'auraient qu'à lancer un nouveau point d'air ou un éclair de magie mixte pour l'assommer ou la tuer. En d'autres termes, fuir ne servait à rien, car elle ne serait jamais assez rapide pour se mettre hors de portée du pouvoir des sœurs. Puisqu'elle la coursait, les trois femmes s'attendaient sans doute à la voir en mouvement, une ultime cavalcade un peu comme un baroud d'honneur. Sachant que prendre un ennemi à contre-pied n'était jamais du temps perdu, Nietzsche se plaqua contre la cloison de marbre de son couloir, du côté où arriveraient bientôt les trois furies. Elle tenta de reprendre son souffle, afin que ses halètements ne la trahissent pas. De sa position, elle ne voyait plus le cadavre d'Anna, mais elle apercevait la flaque de sang qui ne cessait de s'élargir. Comment croire que la dame abbesse était morte? Au fil des siècles, cette femme avait assisté à l'ascension et à la chute de plusieurs royaumes, une infinité de générations défilant devant ses yeux comme à la parade. Parfois, Nietzsche s'était dit qu'Annalina Alderaan était née en même temps que le monde et qu'elle mourrait avec lui. Et voilà qu'elle venait de disparaître en quelques secondes. Même si elle ne l'avait jamais vraiment aimé, Nietzsche en eut le cœur serré. D'autant plus que l'intransigeante Anna, vers la fin de sa vie, semblait être revenue sur certaines de ses erreurs. Plus important encore, après une longue existence, elle avait appris à aimer sincèrement. Les bruits de pas approchant, la magicienne se ressaisit. Ce n'était pas le moment de pleurer. Si la violence et la mort ne lui étaient pas inconnues, bien au contraire, elle restait peu familière des affrontements classiques. À l'époque où on la surnommait la maîtresse de la mort, elle avait vu mourir des milliers de gens, en tuant directement un grand nombre, mais elle ne s'était jamais servie de ses mains pour prendre une vie. Privée de pouvoir, elle n'allait pas avoir d'autre solution. Elle essaya d'imaginer comment s'y prendrait Richard dans une situation pareille. Quand les trois sœurs déboulèrent dans le couloir, elle propulsa son coude dans la figure de la plus proche. Alors qu'elle entendait le bruit sec de dents qui se brisent, Nietzsche vit du coin de l'œil qu'elle venait de s'attaquer à Julia. Avant même que sa victime ait atterri sur le sol, elle sauta sur Armina, la prenant par les cheveux. Puis, elle utilisa la vitesse acquise de la sœur pour la projeter tête la première contre le mur. Au bruit répugnant qui retentit, elle espéra avoir sonné cette garce pour un moment, voire l'avoir tuée sur le coup, mais ça, c'était trop demandé. S'il ne restait qu'une sœur, elle serait tout aussi désarmée qu'elle sur le plan magique. Hélas, Armina avait la tête dure. En criant des injures, elle se releva péniblement. Nietzsche la reprit par les cheveux, décidée à lui faire déguster le marbre pour la deuxième fois. Avant qu'elle ait mis son projet à exécution, Greta la percuta de plein fouet, l'obligeant à lâcher sa proie. Le souffle coupé par le choc, car Greta était un sacré morceau de femme, Nietzsche se débattit à l'aveuglette. Mais la sœur la tenait fermement par la taille. Jouant de son poids supérieur, elle parvint à la faire tomber sur le sol. Refusant d'abdiquer, Nietzsche réussit à se dégager, mais Armina, le visage en sang, lui posa une botte sur la poitrine, la clouant au sol. Greta se relevait déjà, prête à aider sa complice. La douleur arracha un cri à Nietzsche. Alors que son crâne menaçait d'exploser, elle sentit ses poumons se vider de tout leur air. En combinant leur magie, même affaiblie, les deux femmes n'avaient aucun mal à dominer l'ancienne maîtresse de la mort.
« Quelle façon discourtoise d'accueillir de vieilles amies !»
dit Greta. Nietzsche tenta d'oublier la douleur et de se relever. Mais Armina appuya plus fort sur sa poitrine. En même temps, la souffrance s'intensifia encore. Sa vision se brouillant, Nietzsche arqua le dos, tous les muscles tétanisés.
« Je te suggère de ne plus bouger, » dit Armina. « Et si tu as oublié à quel point nous pouvons faire mal à quelqu'un, nous sommes prêtes à te rafraîchir la mémoire. »
Incapable de parler, Nietzsche se contenta de hocher la tête. Julia venait de se relever. Le devant de sa robe bleue rouge de sang, elle avait plaqué les mains sur sa bouche et sanglotait de souffrance et de rage. Le pied toujours posé sur la poitrine de sa proie, Armina se pencha en avant.
« Enfin de retour, ma petite chérie !»
lança-t-elle. Nietzsche en eut les sangs glacés. C'était Jagang qui venait de parler, et il la voyait à travers les yeux de sa marionnette. Libre de ses mouvements, Nietzsche se serait enfui, et tant pis si ce réflexe lui aurait valu une mort brutale et soudaine, tout était mieux qu'une lente agonie.
« Je vais te briser les dents à coups de pied !»
marmonna Julia derrière ses mains toujours plaquées sur sa bouche.
« Je te... »« La ferme !»
cria Armina d'une voix qui n'était pas vraiment la sienne.
« Continue et j'interdirai que tes collègues te soignent !»
Reconnaissant l'empereur, Julia ne se le fit pas dire deux fois. Armina tendit dans sa direction une main impérieuse.
« Allons, donne-le-moi !»
Julia glissa une main dans sa poche et en sortit un objet dont la seule vue fit frissonner Nietzsche. Puis elle le remit docilement à Armina. La sœur retira son pied et s'accroupit. Sachant ce qui l'attendait, Nietzsche voulut se débattre, mais son corps refusa de lui obéir. La magie noire des trois femmes la paralysait et ce n'était que le début de son calvaire. Armina passa le Radha Han autour du cou de Nietzsche. Puis elle le referma d'un geste vif. Aussitôt, la prisonnière fut coupée de son Han. Le don faisait partie d'elle depuis toujours. La plupart du temps, elle n'y pensait même pas. Et voilà qu'elle ne pouvait plus y accéder. Comme ses yeux ou ses oreilles, Nietzsche tenait la magie pour un intermédiaire, lui permettant d'appréhender le monde. Mais ce qu'elle endurait était bien pire que la simple perte provisoire ou définitive d'un sens normal. Il lui manquait une partie d'elle-même, ni plus ni moins.
« Debout !»
lui ordonna Armina. La douleur se calmant un peu, Nietzsche sentit tout son corps devenir étrangement mou. Ses muscles allaient-ils lui obéir? Aurait-elle la force de se relever? Elle n'en savait rien, mais connaissant Armina, elle décida quand même d'essayer. Très péniblement, elle parvint à se mettre à quatre pattes. Sans doute parce qu'elle prenait trop de temps au gré d'Armina, une douleur fulgurante lui scia les reins. Toute force l'abandonnant, elle se laissa retomber à plat ventre. Greta en ricana de joie mauvaise.
« Debout !»
lança Armina.
« Sinon, je vais te montrer ce qu'est la vraie douleur. »
Nietzsche recommença. Et cette fois, elle parvint à se relever assez vite, même si ses jambes tremblaient, elle parvint à ne pas retomber.
Tue-moi tout de suite,
cria-t-elle.
Que tu me tortures ou non, je ne collaborerai pas.
Tu crois vraiment, ma petite chérie?
Demanda Armina d'un ton qui n'était pas le sien. Jagang était toujours là et il se régalait de la scène. La décharge de souffrance partie du collier fut si soudaine et si dévastatrice que l'ancienne maîtresse de la mort en tomba à genoux. Ce n'était pas la première fois que Jagang la torturait. Avant qu'elle l'empêche de s'introduire dans son esprit, l'effet de son lien avec Richard, une protection dont bénéficiaient tous les fidèles du seigneur Hall, le tyran avait pu la tourmenter de l'intérieur et savourer en vrai sadique les effets de ses assauts. Mais rien n'avait jamais égalé ce que Nietzsche endurait à présent. Elle baissa les yeux, s'attendant à voir une flaque de son sang sur le sol. Si elle saignait assez par le nez et les oreilles, cela suffirait à la tuer au bout d'un moment. Mais elle ne vit pas de sang. Jagang n'était pas homme à laisser une proie fuir si facilement et surtout si vite. L'empereur n'accordait jamais une fin rapide à ceux qui l'avaient offensé. Et sur cette liste, Nietzsche occupait sans doute la première place. Au bout du compte, il finirait par la tuer, mais pas avant de s'être pleinement vengé. Pour commencer, il la livrerait en pâture à ses hommes afin de l'humilier. Puis suivrait un séjour sous une tente de torture. Un très long séjour, bien entendu. Une fois lassé de la voir souffrir, Jagang la tuerait. Mais là non plus, elle ne devrait pas espérer un coup de grâce rapide. Un bourreau lui inciserait le ventre et on lui arracherait très lentement l'intestin. Comme à son habitude, Jagang viendrait voir de temps en temps où en étaient les choses, histoire que sa victime n'oublie pas à qui elle devait son atroce agonie. Face à un destin si sombre, Nietzsche ne regrettait qu'une chose. Ne plus jamais revoir Richard. Après une ultime rencontre, supporter son calvaire aurait été plus facile. Armina avança d'un pas, un sourire triomphant sur les lèvres. La sœur contrôlait le Radahan et à travers elle, Jagang en avait lui aussi le plein usage. Conçu pour l'éducation des jeunes sorciers, ce collier agissait directement sur le don. Malgré le sortilège lié au palais, celui qui minait le pouvoir de Nietzsche, l'instrument de torture fonctionnait parce qu'il agissait de l'intérieur. Personne ne supportait longtemps la douleur qu'infligeait un Radahan. Pour que ça cesse, les apprentis sorciers acceptaient de faire n'importe quoi. Nietzsche en tremblait de douleur et sa vision se brouillait de plus en plus.
« Tu comprends ce qui t'attend si tu n'obéis pas ?»
demanda Armina. Nietzsche ne put pas répondre car sa voix lui fit défaut, mais elle réussit à acquiescer.
« Alors relève-toi et vite !»
cria Armina. La souffrance devint moins dévastatrice. Une nouvelle fois, Nietzsche parvint à se relever. Elle aurait voulu ne pas bouger pour forcer les sœurs à la tuer, mais Jagang ne les aurait pas laissé faire, alors à quoi bon se rendre les choses encore plus pénibles? Sa vue s'éclaircissant, Nietzsche nota que le cuir chevelu d'Armina ne saignait presque plus. Revenu dans le couloir principal, Greta était en train de fouiller le cadavre d'Anna. Tirant un objet d'une poche secrète dans la ceinture de la défunte, la sœur l'étudia un moment, puis le brandit à bout de bras.
« Vous avez vu ce que j'ai trouvé? On l'emporte ?»« Oui, »
répondit Armina.
« Mais dépêche-toi un peu, s'il te plaît. »
Greta empocha sa trouvaille et vint rejoindre ses deux complices.
« Je n'ai rien découvert d'autre sur elle.
Alors finissons-en. »
Les trois femmes se tinrent côte à côte, face au couloir où gisait Anna. Même en unissant leurs efforts, elles avaient du mal à utiliser leur pouvoir, c'était visible. Sans le sortilège du palais, chacune aurait pu sans peine lancer l'éclair qui avait tué la dame abbesse. L'air crépita soudain, les étincelles noires de la magie soustractive, et plusieurs torches s'éteignirent. Un linceul d'obscurité tomba dans le couloir, enveloppant la dépouille d'Anna. Nietzsche perdit un court instant la vue. Quand elle la recouvra, il ne restait plus rien du cadavre et de la flaque de sang. Toute trace de l'existence d'Anna Lina Alderen venait d'être effacée par la magie noire des sœurs. Une vie incroyablement longue et riche, réduite à néant en quelques secondes. Personne ne saurait jamais ce qui s'était passé. Le marbre restait fissuré cependant, mais les sœurs ne semblaient pas s'en soucier. Accablé, Nietzsche comprit que tout était perdu. Armina la prit par le bras et la poussa dans le couloir. Nietzsche trébucha mais conserva son équilibre. Chaque fois qu'elle traînait un peu les pieds, un élancement au creux des reins lui rappelait ce qui l'attendait si elle ne coopérait pas. Après avoir tourné à gauche, remonté un autre corridor, puis obliqué sur la droite, les trois sœurs et leurs prisonnières arrivèrent devant l'entrée d'une tombe. Plus légère, la double porte de bronze était également moins ornementée que celle du tombeau de Panisral, situé dans une zone de la crypte assez distante de celle-ci. Nietzsche se demanda ce que les sœurs comptaient faire dans une sépulture. Se cacher jusqu'à ce qu'elles aient imaginé un moyen de sortir discrètement du palais? Attendre tout simplement le jour pour profiter du passage incessant des domestiques, des soldats et des divers fonctionnaires? Pour répondre à ces questions, la magicienne aurait dû savoir comment les sœurs s'étaient introduites dans le fief du seigneur Hall. Hélas, ça restait un mystère. Greta poussa un battant et entra. Les deux autres sœurs la suivirent, flanquant la prisonnière. Une fois dans la crypte, les trois femmes invoquèrent un filament de pouvoir suffisant pour embraser une unique torche. Au centre de la sépulture, un catafalque ouvragé reposait sur un socle de pierre. Dans toute la petite salle, la moitié supérieure des murs était composée de blocs de pierre couleur rouille. La partie inférieure, en revanche, était en granit noir irisé de reflets cuivrés par la lumière vacillante de la torche. Une étrange configuration. On eût dit que la partie supérieure, au-dessus du catafalque, représentait le monde des vivants alors que l'autre évoquait le royaume des morts. Des runes étaient gravées sur la pierre de couleur relativement claire. Ces invocations en haut d'Aran faisaient tout le tour de la tombe. Les parcourant du regard, Nietzsche vit qu'elles imploraient les esprits du bien d'accueillir ce seigneur Hall comme ils avaient accueilli ses prédécesseurs. Elle racontait également la vie du défunt, recensant les bienfaits dont il avait couvert son peuple. Rien ne frappa la magicienne. Le seigneur Hall, qui reposait dans ce catafalque, était mort depuis très longtemps. Durant son règne très pacifique, Dara avait connu ce que le texte nommait « une bienheureuse période de transition ». Dans le granit noir, une mystérieuse inscription implorait les visiteurs de ne pas oublier les fondations qui rendait possible l'existence de tout ce qui se trouvait au-dessus de leur tête. Ces fondations, ajoutait le texte, étaient l'œuvre d'innombrables âmes depuis longtemps oubliées. Sur le catafalque, d'autres runes incitaient les vivants à ne jamais chasser de leur mémoire le souvenir de ceux qui n'étaient plus. Armina approcha, s'appuya au catafalque et poussa. Avec un grincement sinistre, le socle pivota de quelques pouces, révélant un levier. La sœur se pencha, le saisit et tira. Sans grincer cette fois, le catafalque pivota, révélant une ouverture obscure. Cette salle n'était pas un tombeau, mais l'entrée secrète d'on ne savait quelle crypte sous la crypte. Julia la poussant, Nietzsche monta sur le socle et vit que l'ouverture donnait accès à un étroit escalier. Greta s'empara d'une des torches stockées dans une niche dans l'entrée du passage, l'alluma et descendit la première. Julia la suivit, saisissant elle aussi une torche.
« Tu attends quoi ?»
demanda Armina à Nietzsche.
« En route !»